Dans cette émission CPU, pour parler de la construction d'un MMORPG, donc d'un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur, il faut parler à la fois de la vision d'un jeu, de son univers, de la conception aussi bien artistique que technique, et évidemment de la gestion des parties et de la communauté. Et pour ceci, nous avons la chance de recevoir aujourd'hui, pendant le Capitole du Libre, Amalia Trupin et Yanka, deux des cofondateurs du projet Kagana, libristes convaincus et joueurs au premier degré. Alors, vous l'avez compris, je suis victime d'un sort d'enrouement, donc il va falloir m'aider et faire des réponses le temps que je récupère entre chaque question. D'abord, présentez-vous justement, vous deux, quelle est votre passion qui vous a amené justement vers le jeu ?
Alors, qui nous a amené vers le jeu ?
Qui vous a amené vers Kagana ?
Alors, en fait, en fait, à la base, c'est surtout d'avoir regardé Noobs, qui m'a donné envie de jouer au MMORPG. J'étais une joueuse à côté.
Sur YouTube ou sur No Life ?
Sur YouTube.
Ok, bon, on fait un clin d'œil quand même à
No Life. Mais merci à No Life d'avoir fait ce genre de truc parce que voilà, c'était quand même très rigolo. Et je me suis dit, bon, le MMORPG, il faut que j'essaye un peu sérieusement.
Tu te retrouvais plus justement dans l'univers de Noobs que dans l'univers de Nerds, finalement.
Ouais, je dois dire que
c'est
côté très, très déjanté qui, je pense, m'a dit voilà, d'avoir des amis avec qui faire des bêtises comme ça, ça me tend très bien.
Sachant que Fabien Fournier, en fait, lui-même, donc le créateur de la série Noobs, n'est pas un joueur de MMORPG, mais il s'est mis par la suite et ils ont même créé leur MMORPG.
Ça y est, ils l'ont enfin créé.
Je ne sais pas où c'est que ça en est.
Parce que je sais que le projet était dans les cartons, mais que c'était justement un peu compliqué à mettre en place.
En attendant, ils ont trois films à faire. En introduction, donc, je parlais de jeux de rôle papier et crayon et papier. J'aurais pu aussi parler de jeux de plateau. Est-ce que avant l'ordinateur, vous êtes joueur ? Est-ce que vous êtes joueur justement en pen and paper ou plateau ?
On est rôlistes tous les deux avant tout. Je pense même que c'est vraiment très marquant chez nous. On a commencé quand on était ado, mais à 10 ans d'écart.
Ça se voit à peine grandeur nature, parce que là, quand même, il y a du cosplay, il y a level. Hein.
Non, mais enfin, moi, j'ai commencé très très tôt le jeu de rôle, puisque j'avais un copain dont le cousin était à Nanterre quand le jeu de rôle est arrivé en France. Donc j'ai commencé le jeu de rôle avec les boîtes rouges de Donjons et Dragons avec les dés en papier.
La première édition, ça devait être 79, si je me trompe.
Nous, on avait des photocopies. Hein. Puis bon, on parlait pas anglais, donc c'était très approximatif, la façon dont on jouait. Mais donc j'ai fait beaucoup de jeux de rôle quand j'étais adolescent jusqu'à la fac. Et après, la vie a fait que... Alors, je faisais du GN aussi, j'ai fait du GN pendant un temps.
On explique du grandeur nature, c'est-à-dire que là, on écarte les tables, on écarte les chaises et on fait les batailles dans les champs avec des épées en mousse.
Voilà. Dans la forêt. Donc j'ai fait ça jusqu'à ce que je rentre dans la vie active en fait, puis après j'ai plus eu le temps. Et finalement le MMORPG, pour moi ça a été l'occasion de renouer finalement avec le jeu, parce que j'étais tout seul, loin de tout. C'était l'occasion de redécouvrir un univers et de participer à un univers créatif. Voilà. Et c'était avec un jeu de rôle en particulier que j'ai découvert, parce que c'était un jeu de rôle qui est devenu libre, c'est pour ça que je l'ai découvert, c'est Rhizome.
Oui. Donc,
qui est passé libre, je ne sais plus, là, il y a 6...
presque 10 ans maintenant.
Presque 10 ans. Et du coup, alors j'y suis allé parce qu'à l'époque, j'étais déjà libriste et puis j'ai eu envie de soutenir le jeu. À la base, je me suis dit, bon, allez, des gens qui passent libre, je vais les soutenir. Puis il y avait un client Linux, donc je l'ai essayé. Et de ce que j'avais vu par rapport à WoW, etc., c'était vraiment un jeu où il y avait un univers.
World of Warcraft.
World of Warcraft, ouais. Mmh. Et je trouvais qu'il y avait vraiment un univers où il y avait des interactions sociales qui me faisaient penser aux parties de jeux de rôle de quand j'étais étudiant. Et donc du coup, ça m'a donné envie à nouveau de me replonger dans ce monde-là, en fait. Voilà.
D'accord. Vous avez essayé les escape rooms ? C'est à la mode et il y a pas mal qui se sont construites sur Toulouse.
J'en ai entendu parler, j'ai un ami qui travaille là-dedans, j'ai pas encore eu l'occasion de tester. Ça a l'air assez sympa aussi, dans le genre jeu en direct.
Mmh. Oui, parce que du coup, ça permet d'y mettre les non-rôlistes et ils se découvrent, ils se révèlent, c'est impressionnant.
Le truc, c'est qu'on est du Cantal, on habite au milieu du Cantal. Alors, niveau escape room, c'est sortir du département. Déjà, c'est pas mal, hein, surtout en hiver. Mmh. Donc, pour accéder à ce genre de choses, c'est que uniquement dans les grandes villes.
C'est vrai.
Pour l'instant, c'est pas encore arrivé à Rion et Montagne.
Alors, dans le type de jeu, vous êtes plutôt AD&D ou l'appel de Cthulhu ?
On est, enfin, en
plus, bon, je vais la faire différemment. Vous préférez l'action épique ou la réflexion et les énigmes?
C'est pas forcément antagoniste, mais disons que dans l'appel de Cthulhu, ce qui importe, c'est l'univers du créateur. Bon, en plus, on est fans de Lovecraft tous les deux. Je dirais le côté simulationniste. Je pense pas que ce soit le plus important pour nous. Le jeu de rôle auquel on va jouer, papier, on a plutôt tendance à se passer de règles parce qu'on joue depuis longtemps. Mais ça nous gêne pas forcément. Enfin, moi, ça me gêne pas forcément.
Ce qui m'a vraiment plu dans le jeu de rôle, et très vite j'ai abandonné les règles aussi pour ça, c'est les histoires. C'est de raconter une histoire à plusieurs, d'échanger, de créer quelque chose avec les personnes autour de la table. Et le maître du jeu, il est là pour donner un cadre, mais finalement l'histoire elle se construit vraiment avec toutes les personnes qui vont être là. Et donc finalement, que ce soit une aventure épique, que ce soit une aventure policière, de réflexion, parfois même des jeux vraiment bien barrés comme Toons, etc. Peu importe, il y a vraiment tous les styles et sont possibles. Je m'amuse dans vraiment plein de trucs différents, du moment que les gens sont là pour raconter une bonne histoire. C'est ça, c'est vraiment le truc essentiel pour moi.
Ouais, la co-création, il y a d'ailleurs un jeu qu'on a testé récemment qui s'appelle Microscope, qui est un jeu créé par un game designer américain, où en fait c'est un jeu de rôle où on ne joue pas des personnages, on joue une histoire. Et le but du jeu, c'est on co-crée une histoire de façon non chronologique. Et c'est ça. Donc on s'est amusé justement à l'appliquer justement au monde du MMORPG qu'on crée pour créer une partie de l'histoire. Et finalement, on utilise des règles de jeu de rôle pour faire de la dramaturgie ensemble et créer un monde auquel aucun de nous n'aurait pu penser tout seul finalement. Et donc il y a très très peu de règles en plus dans ce jeu. Les interactions sociales, la co-création dramaturgique, finalement, je pense pour nous est plus un moteur que après le reste, c'est de la mécanique finalement. Donc bon, ça peut être rigolo, hein, mais c'est pas l'essentiel. Ce qui est vraiment important, c'est le processus de création dramaturgique et sociale en fait interactif. Finalement, ça peut rejoindre le théâtre, ça peut. La règle n'est qu'un moyen finalement, c'est juste une convention préalable. Donc.
Bon, après, quand même, pour répondre à la question de base, je me suis fait plaisir énormément sur Donjons et Dragons et aussi énormément avec l'appel du Cthulhu.
Et vous seriez prêt à échanger cette magnifique hallebarde plus 20 spécial gros bill contre votre fiole de l'arme de fée pour Rêveur de Dragon?
Ah ouais, sans souci.
Donc plutôt rentrer dans l'art, quoi.
Non, justement, on garde la fiole de rêve.
Ah ouais, la fiole de rêve.
Ah ouais, c'est beaucoup plus fun. Qu'est-ce qui vous plaît le plus au final? C'est un univers historique, un univers de fantasy, de la science-fiction ou de la magie?
Alors moi j'ai un gros problème, c'est que j'adore les multivers. C'est-à-dire tout mettre ensemble, tout mixer et faire une espèce de truc à la fin où il y a un peu de tout.
Donc, voilà. Méniobé, le disque monde.
Le disque monde, parfait. Assez vite, en fait, ça vire un espèce de space opéra avec des portes pour passer dans les univers parallèles, des trucs comme ça. Ça, c'est vite, finalement les sortes d'univers dans lesquels je m'amuse le plus. Ce qu'on retrouve un petit peu dans Canat, parce que j'ai mis des cow-boys dans un coin, des pirates dans l'autre, il y a des légionnaires romains. Tout ça étant évidemment un petit peu retravaillé, mais on sent qu'il y a de l'influence de beaucoup de choses très variées. Voilà.
On va, Yann, Amalia, on va commencer à parler du nœud du sujet. Mais avant, une petite introduction, c'est quelle a été votre première expérience de MMORPG sur ordinateur?
Première expérience de MMORPG. Alors, c'était pas complètement massif. Moi, j'avais testé Diablo à l'époque où on pouvait jouer à plusieurs déjà ensemble.
Il y a la notion d'équipe. On est dans une notion de vraiment de RPG de groupe.
Ouais, voilà, c'est ça. Et en plus, moi, j'avais rejoint un groupe. Je me souviens où déjà on ne trichait pas, parce qu'à l'époque, le Diablo 1, on pouvait assez facilement cheater, surpopper des objets, tout ça. Donc nous, dans la guide, c'était l'interdiction de tricher. On s'engageait à pas tricher, et on n'avait que des interactions dans nos personnages. C'est-à-dire qu'on ne se connaissait pas. Enfin, j'ai oublié depuis le temps même, mais j'avais aucune idée de qui étaient les gens dans la vie en dehors.
Donc c'était vraiment le côté espace de rencontre.
Ouais, on jouait.
Et plus si affinité.
Alors même pas, parce que voilà, je sais jamais. Mais c'était d'avoir des interactions à travers nos personnages uniquement.
D'accord.
Et dans le monde, on s'inventait nos petites histoires, parce que bon, Diablo, il y avait quand même pas grand-chose à part bâcher du monstre.
porte-monstre trésor, on y revient.
C'était voilà, porte-monstre trésor, mais on créait voilà notre petite histoire au sein de la guilde quand même. Donc ça, c'était la première découverte de MMORPG que j'ai pu avoir.
De mon côté, je crois que c'était Edge of Conan. si je me souviens du nom. En fait, c'était vraiment par hasard, en étant chez un ami qui avait ça. Je restais 15 jours chez lui. Comme il était en horaire décalé, ben, le matin, pendant qu'il dormait, j'allais taper des monstres et faire la barbare. Voilà. J'ai joué sur 15 jours, une heure ou deux chaque jour. Puis après, je suis rentrée chez moi, j'ai oublié ça pendant des années jusqu'à réellement me mettre au MMORPG avec Rhizome aussi.
Et vous écoutez CPU, le programme Carré Petit Utile sur Radio Éphémère. Et nous sommes donc avec Amalia Trupin et Yanka, deux des cofondateurs du projet Kagana. Et donc voilà, c'est un MEPORG officiellement. Et parlons justement un peu de Kagana. Alors d'abord, est-ce que c'est un univers original ?
Oui, parce que en fait, nous voulions avoir un univers libre, vraiment 100% sous une licence libre. Donc il fallait créer quelque chose. Et puis après, c'est vrai que c'est venu assez rapidement finalement. Quand on a commencé à discuter, on avait tous des idées les uns les autres.
C'est sous-tendu en plus par. On a eu toute une réflexion en amont relativement philosophique sur ce qu'on voulait voir advenir dans le jeu. Et puis c'est aussi une expérience sociale, hein, le travail qu'on a voulu faire. D'ailleurs, les personnages, en fait, les créatures importantes du monde, qui sont celles qui peuvent rêver le monde. Dès l'instant où on peut rêver le monde en une créature importante, ce sont des créatures dont tous les noms finissent par rat dans la langue sacrée. Donc, ce sont des rats. Donc on voit tout de suite
des scélérats,
des rats de laboratoire.
Donc des rats de laboratoire. Et donc on a vraiment eu une réflexion justement sur le rapport qu'on peut entretenir au jeu, les rapports de réalité. Nous on parle pas d'IRL, on va parler d'AFK.
Mais pour nous, attention.
Ce qui se passe dans
la vie réelle, dans la vie réelle, et AFK, c'est loin du clavier.
Away from keyboard. Et donc il y a beaucoup de gens qui font la différence entre le monde du jeu et donc qu'ils appellent virtuel. Qui pour moi n'est absolument pas virtuel, puisque c'est actualisé, puisque c'est instancié même techniquement. Et le monde soi-disant in real life, la vraie vie, mais c'est la vraie vie, hein, ce qui se passe sur l'écran, les interactions sociales sont réelles, etc. Et donc on a vraiment une grosse réflexion sur les niveaux de réalité justement au sein du jeu, et on a voulu le transposer dans le monde aussi. Le fait aussi que ce soit un projet libre sur lequel il y a des contributions externes, qu'il puisse y avoir des forks, etc. On a voulu l'intégrer aussi dans l'imaginaire du monde. Le fait que ce soit un monde qui soit en train d'advenir aussi, on a essayé de l'intégrer dans l'imaginaire du monde. Enfin, voilà, on a essayé de se poser la question sur les outils qu'on utilise, que ça puisse être transposé dans le monde. Puis bon, après, il y a eu plein de jeux de geeks, de jeux de mots à deux balles, etc. aussi, qu'on a voulu, forcément, comme tous les créatifs. Mais enfin, il y a eu beaucoup d'allers-retours, finalement, entre les possibilités techniques, les envies philosophiques, les envies sociales, etc. Et ce à quoi ça allait correspondre dans le jeu. Et aussi, les processus qu'on voulait voir advenir au sein du jeu, au sein du gameplay. Parce qu'on a aussi toute une réflexion sur le gameplay. Et donc, du coup, dans le monde même, ça nous a obligés à rendre ça tangible, finalement, au sein du jeu, par des principes qu'on veut mettre en place dans le gameplay et dans l'univers, en fait, puisqu'il y a forcément des échos, en fait, entre les deux.
C'est vrai que ça aurait été compliqué de trouver un univers où on pouvait intégrer des réflexions qui sont vraiment propres à l'univers de jeu. Par exemple, un truc très basique, dans un MMORPG, dans la plupart des jeux vidéo, la mort n'existe pas. C'est normal, on se fait tuer par un monstre, on réapparaît au point de sauvegarde précédent, on est reparti, et voilà, ça fait partie du jeu, et en tant que joueur, quand on joue, on se pose pas la question. Mais de réfléchir à un univers, un monde où effectivement la mort n'existe pas et où le jour où on se fait croquer par le crocodile du coin, on se réveille le lendemain et bon, là je vais peut-être prendre un ou deux jours d'arrêt parce que c'était un peu traumatisant comme expérience, mais ensuite je retourne au boulot. Hein. Ben, tout le monde entier va changer, rien qu'avec cette petite équation qui change complètement les choses. Quoi. La mort n'est pas la fin, c'est énorme. Et à partir de là, forcément, il y a tout un univers qui se crée sur ce genre de choses.
Alors, comment, en fait, l'univers, vous avez commencé à le concevoir ? Vous êtes justement parti de ce constat, de cette idée-là, c'est-à-dire la mort n'est pas la fin, ou qu'est-ce qui fait, justement, le petit germe qui fait on construit l'univers à partir de ça ?
Ça c'était quand même un élément assez très important, parce que c'est arrivé très tôt. Et l'autre, c'était...
C'est le camp.
Il y a le camp, et le jeu et la réalité ne sont pas distincts. Ouais. C'est-à-dire que tout ce qui advient dans le jeu, ça advient véritablement dans ma vie, et tout ce qui existe dans ma vie. Donc il y a vraiment un flou entre les différents niveaux c'est des renvois, des liens qui existent entre les mécanismes sous-jacents et l'univers de jeu, et des correspondances qui doivent être maintenues. En fait, entre les deux.
Il y a donc, ce que je disais, c'est le camp, donc le grand empereur, quelque part. En fait, quand on a commencé justement à dire qu'est-ce qu'on va faire comme monde, on s'est dit, bon, On est des libristes, on crée un MMORPG, c'est le genre de projet de toute façon des bénévoles. Non mais enfin voilà, c'est même pas la peine de rêver, ça marche pas. Donc ça va peut-être être un MMORPG sur le principe, mais peut-être qu'on aura 4 pélos sur la carte. Donc s'il y a 4 pélos et qu'on a 15 pays et qu'ils sont tous chacun dans leur capitale, ça va pas aller. Donc on va faire en sorte que les gens de base aient une raison pour se réunir au même endroit. Et donc pour ça, on imagine un monde qui fonctionne sous le principe d'une sorte d'empire où il y a donc l'empereur principal, donc le camp, parce qu'on va pas reprendre le nom d'empereur, c'est pas drôle quoi. Donc le camp qui est là, qui fédère vraiment le monde en entier. Et en fait, le camp dans le Khanat, c'est celui qui fait le lien entre les désirs des citoyens, les désirs des joueurs aussi du coup, et la réalité du monde. C'est lui qui va dire, voilà, ça, ça a le droit d'exister, ça, c'est... Ça, c'est réel.
Celui qui transmute en fait le rêve, qui transmute le rêve en réalité. En fait, il est le Khan, il est l'incarnation, le Khan est l'incarnation du Khanat en fait. Donc ça c'est.
Voilà, ça c'est le l'élément fondateur qui permet de comprendre tout le Khanat.
D'accord. Et il faut arriver à trouver un équilibre dans le jeu pour que il y ait pas des personnages qui soient plus puissants trop rapidement par rapport à d'autres, pour pas qu'ils soient trop frustrants par son niveau de difficulté, soit des monstres, soit des énigmes et tout ça. Comment on arrive à trouver un équilibre?
Alors,
c'est du test and retry. C'est...
Alors, au niveau gameplay, on a beaucoup pensé de choses au niveau game design, mais il faut savoir que le client n'est pas encore fini. C'est aujourd'hui, si vous allez sur le client et que vous rentrez dans le monde de Khanat.
Non, mais il ne faut pas dire ça. Hein, aucun site web n'est fini. Hein.
Non, mais
premier,
même,
c'est celui de l'émission.
Pour l'instant, on est vraiment en alpha. Par contre, justement, on a réfléchi là-dessus. On a hésité un petit peu sur comment faire et on s'est dit, on va remettre les choses à zéro. Les histoires de niveau, de farmer les monstres et tout ça, ça ne nous amuse pas. On va faire autre chose. Si les gens veulent farmer, ils vont farmer. Mais de base, il n'y a pas de niveau. De base, si on veut apprendre quelque chose, on va trouver le vieux sage qui va nous apprendre le truc en question. Et c'est tout. Et l'idée, c'est qu'un personnage qui vient d'être créé, s'il va se castagner au bar du coin avec un autre personnage qui est là depuis 15 ans et qui, lui, maîtrise toutes les armes, etc., s'ils sont tous les deux en train de se battre à poil et à main nue, on ne peut pas savoir qui c'est entre les deux qui va gagner. Parce qu'ils sont de force égale. Voilà. Donc, c'est histoire de remettre un petit peu les choses au même niveau. Par contre, évidemment, le joueur qui est là depuis 15 ans et qui, derrière, a accumulé du bon matos, il a accumulé plein de compétences, ça, il va être quand même beaucoup plus doué que le petit genou pour aller dans des zones dangereuses et pour se débrouiller et pour arriver à survivre.
Ouais, et puis, on travaille avec un système de briques en fait, pour les compétences. Et donc, ce sont des briques que l'on peut combiner pour obtenir une action. Et comme ce sont des niveaux à plat, un vieux joueur qui fait un nouveau personnage, s'il sait où aller chercher ses briques, s'il sait bien les combiner, l'idée c'est aussi de pouvoir faire du. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le roleplay. Donc de pouvoir aller rapidement faire un personnage qui soit intéressant à jouer. Et qu'on ne soit pas obligé de farmer pendant 3 mois avant de commencer à avoir un personnage.
Donc farmer, ça veut dire accumuler la puissance par des actions répétitives.
Voilà, c'est ça, de tuer du monstre. Et d'autre part, ça nous permet aussi de supprimer, qui pour nous est un écueil par rapport à la vie du monde, puis la vision philosophique qu'on veut du jeu, c'est que les gens aient un autre rapport à l'univers du jeu, et qu'ils ne voient pas ça comme une denrée, comme un truc qu'on doit consommer, qu'on doit s'approprier, qu'on doit détruire, qu'on doit affronter. D'autant plus que le moteur, donc on s'appuie sur le moteur Rhizome Core, en fait, parce qu'on n'a pas codé le MMORPG nous-mêmes. On n'est pas complètement fou quand on est des bénévoles. Voilà.
C'est l'avantage de l'open source, c'est qu'il y a des briques qui sont déjà dispo.
Voilà. Des briques qui représentent 5 millions de lignes de code, c'est plus de 600 ans hommes de travail pour un budget de 30 millions estimé.
Ouais, voilà. C'est déjà plus que le kernel Linux.
Voilà, c'est ça.
Donc, voilà, c'est vraiment un très gros truc. Et donc là-dedans, il y a entre autres, une IA pour les créatures qui est extrêmement développée. Le problème, c'est qu'il leur faut du temps pour apprendre aux mobs. C'est-à-dire que si un mob s'affronte avec un joueur, s'il survit, selon qu'il ait survécu en s'enfuyant, en combattant, en faisant de la magie, en utilisant un pouvoir, etc., il va en tenir compte pour les rencontres ultérieures. Le problème, c'est si on farme et qu'on décime régulièrement toutes les créatures, elles n'ont pas le temps d'apprendre. Et il y a plein de processus comme ça au niveau du monde. On a envie vraiment que le monde soit vivant, qu'il puisse évoluer, qu'il puisse y avoir des interactions riches autres que l'exploitation brutale, la destruction, l'appropriation des denrées même au sein du jeu. Et donc il faut aussi l'envisager que les joueurs puissent s'amuser quand même et donc qu'ils puissent avoir accès à un niveau de jeu suffisant. Finalement, sans être obligé d'aller tuer faire du porte-monstre trésor pendant des mois. Et donc, que ça puisse se faire. On a envisagé même plusieurs façons d'acquérir les compétences.
Y compris en farmant.
Y compris en farmant, mais ça peut être Alors ça, c'est pas encore codé, hein, je préviens tout de suite. Mais ce qu'on aimerait, c'est que si on regarde quelqu'un qui fait une action de façon répétée, qu'on puisse finir par apprendre ce qu'il est en train de faire. Donc qu'on puisse apprendre la brique qu'il utilise, par exemple. Et donc comme ça, on a prévu au moins 3 modes d'apprentissage pour chacune des briques. Et ensuite, chacun peut combiner les briques de façon à pouvoir créer son personnage, créer son... Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'il puisse être producteur d'histoire et d'interaction sociale. C'est ça qui nous intéresse finalement. Ouais. Aller bâcher du monstre, c'est jamais aller détruire des 0 D1 derrière. Pas forcément absolument génial. Par contre, créer des contextes de relations sociales, des contextes dramaturgiques pour qu'il advienne une... Voilà, comme je disais tout à l'heure avec le microscope, là, le monde qu'on a créé tous ensemble, aucun de nous n'aurait été capable de le faire tout seul. Bah, c'est la même chose. C'est qu'à un moment, il y a ce petit moment magique où d'un coup, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une histoire qui se déroule. Personne n'a prévu quoi que ce soit et voilà, elle advient.
On est dans un projet libre. L'idée de ne pas reposer sur un serveur central inamovible. N'importe qui peut installer ce type de serveur. Donc, comment en fait l'installer ? Est-ce que ça se fait facilement ou ça demande des compétences ?
Alors, dans l'absolu, un jour, ce sera facile.
Ah, ouais, un jour.
Aujourd'hui, on a quand même bien débroussaillé les choses, donc ouais. c'est plus facilement faisable. Après, on est aussi, les gens qui veulent faire ça, installer, ils viennent nous voir sur IRC, on les aide, on les accompagne, il n'y a pas de problème. Mais ça demande quand même, faut le dire, ça demande des compétences. C'est toujours un petit peu aléatoire. C'est est-ce que ça va marcher ? Est-ce que là, il n'y a pas un bug qui va se réveiller ? Enfin, voilà. Encore complètement gagné, mais on y travaille.
Il y a l'un de nous qui travaille sur une VM, par exemple, pour le serveur. Parce qu'en fait, on parle de serveur, mais c'est pas. Il faut voir que ça a été développé à l'époque, donc historique, par Nevrax, donc était un labo, c'était un studio professionnel. Enfin, les gens qui ont fait le moteur, c'était des vrais professionnels qui ont travaillé pendant beaucoup d'années dessus. Mmh. C'est des gens qui voulaient concurrencer WoW, justement, et Blizzard. Hein, et c'est pas des petits codeurs. Quand on se rend compte justement de la complexité de tout ce à quoi ils ont pensé, c'est d'une richesse absolument incroyable. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas eu le temps de finir de documenter. Donc on a juste 5 millions de lignes de code avec des fois du commentaire hack pour Nono.
Donc d'ailleurs, si Nono nous écoute,
dans le nom de la fonction,
si Nono nous écoute, s'il te plaît, fais-toi connaître.
Et donc, y a en fait plein de services, parce qu'à l'époque, les machines étaient beaucoup moins puissantes, donc c'était censé être sur plein de machines différentes. Donc maintenant, on peut tout intégrer sur un serveur, donc on essaie de mettre en place le système avec une seule VM. Mais il y a énormément de services, il faut ouvrir beaucoup de ports. Enfin, ne serait-ce que gérer le shard en lui-même, il y a des IA par zone. C'est un moteur de jeu qui est entièrement traduit avec des gestions dynamiques des phrases pour que le serveur envoie selon la bonne langue aux gens les bons trucs. Il y a une gestion des saisons, il y a une gestion de l'indoor, de l'outdoor, des instances, il y a le cycle de texture pour les saisons, il y a les IA, je vous disais, pour les mobs. C'est pas un logiciel clic.
Donc ça veut dire que pour l'instant, on est obligé de se baser sur un serveur qui est plus ou moins entretenu, je vais dire, par le projet.
Oui.
Mais du coup, justement, comment, puisqu'il y a une consommation énorme qui est effectuée par le serveur et tout ça, c'est du coup, comment vous le financez ? Est-ce que c'est de la vente de ce bif en peluche ?
Alors, absolument pas. On a basé notre modèle économique sur un pari, qui est de se dire, si ça intéresse les gens, ils vont nous donner des sous pour ça. Et donc, c'est vraiment juste sur le libre don. Donc moi, chaque année, en tant que trésorière, je fais le budget en disant, voilà, on va avoir besoin de temps cette année pour faire tourner les serveurs. Parmi tous ceux qui sont présents aujourd'hui, tout le monde donne telle somme, c'est bon, on couvre. Donc voilà. Si vous, on veut adhérer à l'association, c'est 5 euros. C'est pareil, ça fait partie des sous qui vont aller dans l'entretien du serveur. Et pour l'instant, ça marche. l'instant, on paye les serveurs, sachant que comme on n'a pas grand monde, on n'a pas besoin non plus de serveurs très costauds ni rien. Donc c'est des petits serveurs. Ça nous coûte pas énormément non plus. Il faut quand même le dire. Ouais. Et ça aussi, heureusement, l'informatique a vraiment des prix qui ont baissé. Mais c'est vrai que si à un moment on commence à avoir plus de monde, il faudra être sur des serveurs ou un peu plus costauds, avec un peu plus de support, un peu moins bidouillé. Donc ça va vite monter au niveau du prix. En même temps, je remarque quand même que là, tous les gens qui viennent, même qui participent, qui donnent de leur temps pour améliorer les choses et tout ça, ils donnent aussi quelques euros dans la mesure de leurs possibilités. Donc, pour l'instant, ça marche.
Et nous sommes donc avec Amalia et Yann, donc qui sont les cofondateurs du jeu Kagana. J'ai mal prévisé, il me faut encore mes notes. On parle quand même de faire donc un jeu qui est graphique. Donc, ça veut dire faire un design graphique et comment on le fait au sein d'une équipe open source. C'est pas comme du code où à la limite tout le monde peut s'assurer, ouais, on fait ensemble, on fait du TDD ou des trucs comme ça, où on utilise tel style programmation, Pep8 ou je ne sais encore quoi derrière. Comment on fait justement sur le graphisme?
Alors là, on a eu une chance extraordinaire. C'est que Rhizome a justement libéré tous ses assets graphiques. Donc, il y a déjà tout un MMORPG dont tous les assets sont utilisables. Et ça, ça nous a servi de base. Ça nous sert encore de base, d'ailleurs. Ils ont aussi libéré récemment tous les concept art. Ouais. Et donc, quand on a réfléchi justement à la question du design graphique, on a dit, bon, sur quoi est-ce qu'on part exactement? On a regardé un petit peu les ressources libres qui existaient déjà. On a dit, bon... Tout faire de zéro,
donc
ça va
c'est
être
pour
lourd.
Ça que c'est pour ça en fait que vous exposez là en ce moment au Capitole du Hip. Déjà vous montrez justement des vidéos et des tout ça c'est parce que vous avez des scènes que vous pouvez déjà montrer.
En fait, voilà.
on peut jouer en fait, sur le Alpha,
ouais. C'est ça en fait, on est parti de quelque chose qui existait déjà et on s'est dit en fait le style graphique nous plaît, donc on va continuer sur ce truc là. On va il y a finalement une charte graphique qui a été déjà décidée à la base et qui est sympa. Et donc nous, on continue, mais en ajoutant nos propres éléments, en ajoutant, entre autres, Rhizome est un jeu où il n'y a pas du tout d'éléments de pierre, de métal et autres. Donc chez nous, on ajoute ça et ça commence déjà à changer le jeu au niveau visuel.
Ouais, et puis on a commencé en fait par modifier un tout petit peu, on va dire, on va retravailler les textures, etc. Et on s'est rendu compte que ce qui nous plaisait dans le jeu Rhizome, c'est que bon, il y avait des grands graphistes, des gens comme Garcia, hein, le gars qui fait les concept art pour Luc Besson, etc. Donc des très grands artistes qui avaient bossé pour Nevrax à l'époque. Mmh. Ouais, moi j'ai modélisé des créatures avec des concept art de Garcia, quoi. La classe quand même. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'ils avaient un vrai style. Il y a une ambiance en plus dans le jeu, parce que si demain vous voyez la conférence, vous verrez, il y a tout un travail sur l'atmosphère, sur les atmosphères lumineuses, etc., qui ont été vraiment très travaillées. Et on n'est pas dans du WoW-like qui est du Medfan classique avec des maisons à colombages. Donc, alors, avec Sébastien
World of Warcraft, oui, Medieval Fantasy classique, maison à colombages, donc voilà.
Ouais, maison à colombages avec sous bassement en pierre qu'on voit partout, avec des nains, des orques, des elfes, etc. Et puis avec des dessins un petit peu cartoon.
Je repense au début de Nullbuck, premier épisode.
Exactement.
je suis un nain et toi t'es quoi? Je suis un barbare. Oh, comment ça se fait qu'on soit là?
Voilà, c'est ça.
C'est un peu ça. Donc et puis il y a tout le graphisme finalement qu'on retrouve toujours des auberges machin et ce côté un petit peu cartoon qu'il n'y avait pas dans Rhizome. Et je pense que c'est quelque chose qui nous plaisait. Et en même temps, on n'est pas non plus vers le photoréalisme à outrance de maintenant qui pour moi comble souvent des carences de gameplay ou d'originalité de l'univers. On était dans un truc un peu médian finalement, avec un style un petit peu original.
En tout cas, moi, ce qui m'a plu vraiment, c'est quand pour les raisons de préparation, c'est-à-dire la veille d'aujourd'hui, alors que j'ai préparé déjà 3 émissions plus une conf et une de secours. Donc, je suis allé voir donc sur Kagana, sur le site, et il y a énormément de concept art dans énormément de styles différents. Il y a du Rauf, il y a du dessin fait à l'outil symétrique en 2D, ouais. Etc. Et en plein milieu, il y a des planches complètes de photos de personnages faits en plasticine, en pâte à modeler. Et là, c'est waouh, génial, c'est juste fabuleux, quoi. Ça démontre déjà énormément que pour participer à un projet open source, on n'a pas besoin forcément de connaître l'outil informatique et on peut aller jusque là. Comment on fait pour faire la transposition justement de l'objet en plasticine à 3D?
En fait, pour revenir justement sur ces petits objets qu'on a fait en pâte à modeler.
Ça s'appelle de la pâte à rêve, le nom. Le nom, en plus, rien que le nom, quoi. C'est de la pâte à rêve.
Ah ouais, ouais, c'est classe.
Et pour revenir là-dessus, en fait, ça fait partie des choses justement pour les bénévoles. C'est de dire, vous savez pas dessiner, vous avez envie de dessiner, mais allez-y. Enfin voilà, faites-le, et puis c'est à force de faire qu'on commence à s'améliorer. Et justement, on peut voir dans les concept art, il y a des trucs qui sont absolument pourris, mais voilà, il y avait quelqu'un qui avait une idée, qui avait envie de montrer ce qu'il avait dans la tête, et il a pris son crayon, il a fait quelque chose. J'ai commis quelques trucs dans ce genre-là aussi, je sais pas dessiner.
On monte en compétence.
Et puis dans l'eau, au fur et à mesure, il y a des gens, ils se disent, ah mais c'est cool de dessiner, là je suis en train de reprendre, ça me fait plaisir, et petit à petit, ça s'améliore. Et voilà, bon, la pâte à rêve, c'était justement une de nos activités quand on s'est retrouvés en vrai, parce qu'on travaille beaucoup par Internet. Là, on va s'amuser, on va faire des créatures. Oui, parce et on a passé une soirée de fou à faire des tonnes de créatures.
C'est le truc, c'est pas évident de trouver des gens pour faire les graphismes libres, finalement. Bon, les développeurs, c'est pas forcément évident, mais sur le graphisme, c'est extrêmement compliqué de trouver des gens compétents en graphisme qui s'engagent dans des projets libres. Donc, finalement, ça a fini par tomber sur moi un petit peu, parce que je suis tombé amoureux de Blender grâce à Kaganat. Et donc j'ai bien progressé en fait en capacité de modélisation, etc. Mais je sais pas dessiner. Et donc je disais tout le temps, mais donnez-moi des concepts à modéliser. Enfin voilà, modéliser. Moi je peux faire les. Maintenant je sais comment sculpter avec Blender, mais donnez-moi des idées. Et comme on savait pas dessiner, on a dit on va faire comme les gamins, on va acheter de la pâte à modeler, enfin de la pâte à rêve, et on va faire un truc et on va faire des bestioles. et finalement,
c'est parti de ça.
Et du coup, ça nous a donné des idées. Puis ça nous a donné vraiment des concepts finalement de créatures, de plantes, ça. Puis en s'amusant pendant un après-midi à faire de la pâte à modeler.
Et puis c'est relativement contraignant la 3D, même si maintenant il y a des outils qui permettent de faire des trucs de plus en plus fabuleux, sans aller jusqu'à Google avec son outil de peinture 3D. Mais c'est très libérateur de revenir justement au physique.
Ouais, c'est très libérateur. Mais pour revenir justement aux outils 3D, donc ça fait 4 ans à peu près qu'on travaille sur Kaganat.
C'est, il y a 2 ans, tu maîtrisais pas Blender.
Ouais, non. Puis en même temps, enfin, moi, j'ai vu l'outil Blender s'adresser à des gens comme moi, finalement. Hein, je sais pas du tout. Honnêtement, c'est quand je vois ce que j'arrive à produire grâce à un outil comme Blender, c'est juste un outil qui est fabuleusement intelligent. Hein, sur l'ergonomie d'interface, je suis vraiment tombé amoureux de Blender. Je dis régulièrement, Blender, c'est trop bien.
Alors qu'au départ, c'était pourri. Puis un jour, ils se sont dit, on va faire un dessin animé d'animation. Et une fois qu'ils sont finis de leur Big Bug Bunny, d'accord, il y a des choses à revoir comme dans l'outil.
Ouais. Et puis je pense que justement, pour faire le parallèle par rapport à notre projet, quelqu'un comme Ton Rosenthal qui fait vivre la fondation Blender, il a vraiment une vision finalement de son truc. Il essaie de faire vivre les outils. Il pense aux utilisateurs, etc. Il y a vraiment un échange finalement entre ce gars-là qui fait vivre Blender depuis des années. Mais il y avait les conférences Blender tout récemment. Il y a vraiment des échanges avec la communauté. Et pour en revenir justement avec le projet Kaganat, lorsqu'on a créé le projet, donc au départ on n'était que 3, c'est aussi quelque chose qu'on a voulu intégrer, c'est-à-dire qu'on a envisagé dès le départ le fort, comme on le disait tout à l'heure, mais on a voulu faire un projet qui puisse accepter n'importe qui, quelles que soient ses compétences, quelles que soient ses envies. Il y a des gens qui arrivent avec des compétences informatiques et on leur dit, mais t'es pas obligé de faire l'informatique. Alors, ça nous arrangerait. Hein. Si tu aimes le C++, Python et Blender, tu es mon ami. Mais si t'as envie de dessiner, si tu as envie. Donc, on a une amie qui est pas du tout dans le métier littéraire. Elle a eu envie d'écrire, elle a une jolie plume en plus. Ben, c'est devenu celle qui écrit le plus de textes courts dans le monde de Kaganat. C'est elle qui nous fait vivre Kaganat finalement. Alors que son métier est vraiment à l'opposé de ça. Puis au début, il fallait l'aiguillonner un petit peu, la motiver. Et maintenant, finalement, c'est celle qui produit le plus de textes littéraires. Donc, il y a vraiment aussi l'idée d'accompagner les gens et d'essayer de nourrir le projet aussi par les envies des gens, sans forcément essayer de tirer profit finalement de leurs compétences, mais qui se fassent plaisir. Parce que faire un MMORPG, déjà, c'est un truc de malade mental quand même. Parce que vous avez des trucs comme Wizard of the Coast. Ils ont laissé tomber leur MMO. Trop compliqué, Wizard of the Coast. Ils avaient un petit peu d'argent quand même. Ils ont laissé tomber.
Ils ont capitalisé d'abord sur Magic the Gathering. Ils ont racheté énormément de jeux. Ils ont même racheté des éditeurs de MMORPG justement.
Ils ont laissé tomber World of Darkness. Après, donc nous, on veut juste concurrencer ça en étant bénévole, sans argent, sans s'y connaître. Donc, faut être réaliste. On a peu de chances d'arriver rapidement à mettre en place le projet. Donc, il faut que le processus soit également un plaisir. Il faut qu'on s'amuse à faire ce qu'on est en train de faire. Il faut que, là encore, comme je disais tout à l'heure, l'expérience sociale, la co-création dramaturgique dans le monde soit importante. Ça. Mais c'est valable aussi dans le projet en lui-même. C'est-à-dire qu'on doit prendre plaisir à se retrouver le soir, des fois, pour dire juste des bêtises. Hein. Je peux le dire d'autant plus que pratiquement sur le canal, c'est moi qui poste le plus de crétinerie. Hein. Donc, voilà, comme je suis en plus, c'est marqué, je suis modo. Donc, voilà, si lui, il le fait, je dois pouvoir aussi un petit peu. Et en même temps.
Ah, bravo, le bel exemple.
Oui, je suis un modérateur modérément modéré.
On n'a pas le droit d'être raciste, sauf envers les elfes, parce qu'ils sont des déniens.
Mais donc, du coup, on essaie vraiment d'inciter les gens justement à venir se faire plaisir, quelle que soit la chose qu'ils ont envie de faire au sein de Kaganat, qu'ils puissent assouvir peut-être des envies qu'ils n'oseraient pas faire, qu'ils ne se sentent pas obligés finalement par l'objectif. Parce que déjà, on a un client, donc moi je dis c'est un pré-alpha, parce que finalement on a un client sur les 3 plateformes qui tournent, avec un serveur qui tourne, où on peut aller avec nos personnages, avec le monde qui tourne, etc. Il n'y a pas beaucoup de contenu, mais on peut y aller. On s'est amusé à faire des réunions sur Kaganat, autour du feu, à se raconter des histoires, à faire avec nos petites créatures, etc. Donc on a déjà quelque chose où on peut se faire plaisir. Et donc le but, c'est pas non plus de s'épuiser finalement, essayer de créer le même RPG le plus vite possible, etc. C'est prendre plaisir au chemin tous ensemble. Et du coup, il peut advenir aussi une aventure que nous, on n'avait pas prévue. lorsqu'on a créé Kaganat, finalement. Peut-être que ça va devenir de façon complètement différente que ce que
la création du jeu devient une quête elle-même.
Complètement.
On pourrait parler aussi du design sonore, mais on n'aurait pas le temps. Et je pense que quand même, il y a d'autres sujets. C'est vraiment dommage, mais là, en fait, il nous reste que 7 minutes. Et je fais gaffe à la montre parce que quand même, Yann, il a une conférence juste après. Par contre, en fait, Kaganat, donc, est bien un projet open source. On l'a bien compris. Mais quelle est la ressource qui vous manque actuellement le plus? Je crois que tu as eu un cri du cœur.
C'est pas open source, nous sommes un projet libre. C'est très important pour nous parce qu'on est, enfin, dans l'esprit, on est quand même beaucoup plus proche du monde du libre que du monde open source. Donc c'est pour...
Oh merde, on relance une bagarre.
Non, mais sans vouloir troller.
On n'en lancera pas la bagarre plus loin, mais voilà.
Non, bien précisé. C'est pas du tout un troll, mais c'est vraiment pour que les gens nous placent. C'est-à-dire qu'on a vraiment on est beaucoup moins pragmatique. C'est-à-dire, sans porter de jugement, hein, c'est-à-dire le mouvement open source prend une position assez pragmatique. On est beaucoup plus idéaliste, en un certain sens, que pragmatique.
Hein, d'accord.
Sur le positionnement. Donc... Par contre, au niveau des besoins, très pratiquement, en ce moment, on a le plus gros écueil finalement qu'on a sur le jeu, c'est que le pipeline de production graphique repose sur un outil privateur qui est 3ds Max, une vieille version de 3ds Max avec un plugin dédié sur une vieille version de C++, donc ça c'est vraiment l'horreur. Pour arriver et donc du coup donc, ça
tu l'as dit pendant les interruptions musicales, c'est actuellement ça tourne sur un Windows 95 émulé, donc
voilà, c'est
oui,
ça
Windows XP Windows ouais. XP mais bon c'est pas
Windows
beaucoup mieux quoi
Windows XP mais et en plus ça nous bloque pour pouvoir déployer intégralement le pipeline sous Linux, parce que après il y a une gestion de suivi des versions des serveurs, des clients, des patchs, etc. Donc c'est un système intégré qui est extrêmement complet, mais on peut pas le déployer véritablement parce qu'on est bloqué par ce problème privateur, en fait, on va dire. Et donc, ce qu'il nous faudrait, c'est nous, ce qu'on aimerait, c'est que ce soit porté sous Blender, sauf que ça demande quelqu'un qui s'y connaît suffisamment en 3D pour comprendre l'espace. En fait, le moteur graphique s'appelle NEL, c'est Nevrax Library. Donc, quelqu'un qui puisse comprendre suffisamment la 3D pour pouvoir sérialiser correctement les données, qui comprenne suffisamment le C++ pour comprendre le plugin 3DS Max, et puis sous Blender, ce serait porté sous Python.
Et moi, je rajoute dans ce cas-là, à gagner, il y a sûrement des emplois à gagner chez des grands éditeurs de jeux vidéo, parce qu'ils sont très, très, très demandeurs de gens expérimentés dans ce genre de choses. Donc, c'est le moment de se faire les dents, quoi.
Voilà, venez chez nous, on a quelques millions de lignes de code à vous faire voir, si vous voulez vous faire la main.
Mais par contre, ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure aussi, pendant la pause, il ne faut pas avoir peur des gros morceaux, parce que là, changer la façon de faire et se passer de 3DS Max, ouais, ça fait un peu peur aux gens quand ils voient le truc. Oui. C'est vraiment immonde, quoi. Le code derrière, tout ça, c'est vraiment pas la jolie partie du truc. Et en même temps, une fois que ce sera fait, ça veut dire que les gens pourront participer facilement pour modéliser, etc. Parce que là, pour l'instant, quelqu'un qui nous modélise un chouette truc, pour le passer en jeu, c'est la cata. C'est vraiment la grosse galère, quoi.
D'accord. On parlait aussi, donc, puisque dans la plupart des univers, donc ça veut dire qu'il n'y a pas que le jeu lui-même. Il y a justement, il y a des nouvelles, des trucs comme ça. Il y a quoi ? Il y a en plus de l'illustration, il y a de la musique. Qu'est-ce que l'on peut consulter, voire participer ?
Alors pour l'instant, on a quand même pas mal de choses, justement au niveau des histoires écrites. Ça, je pense que c'est la grosse partie transmédia qui est actuellement en place. Musique, on n'a encore rien. Ça va venir, je pense, parce qu'on
a quelqu'un qui y travaille.
On a quelqu'un qui y travaille. Yann a modélisé quand même des petites scènes sympas en s'amusant avec les.
Ouais, il y a des trucs sous Blender, justement, des assets qu'on a récupérés, qu'on a modifiés, qu'on a canalisés, etc. Des illustrations, Donc, pour l'instant, c'est encore en devenir, je dirais, parce que c'est. On s'est pas vraiment ouvert. On a fait notre coming out il y a quelques mois sur Linux FR. Donc on n'a pas dormi pendant une semaine sur le canal IRC. Il y avait trop de monde qui débarquait.
Ah mais ça c'est cool déjà.
Ah oui, c'était sympa. Alors ce qui est rigolo justement, c'est y a plein de devs qui arrivent. Viens, tu es mon ami. Et donc ah ouais, moi j'aime bien C++. Tiens, regarde le dépôt. C'est ça qu'il faudrait reprendre.
Donc en fait, il vous manquait des barbus qui sachent miner dans des zones très profondes.
Voilà, c'est
code.
Ça. Et là, il y a des gars qui disent donne-moi le lien de ton dépôt, je vais aller voir. Et le gars déconnecté, tu vois, je reviendrai. On les attend toujours. Et il y en a quand même quelques-uns qui sont accrochés, donc il y a des gens qui sont qui n'ont pas perdu espoir, alors que c'est un travail de fourmi, mais en même temps il n'y a pas d'impératif, comme je disais. C'est vraiment comme l'idée, c'est de se faire plaisir. Là on a trouvé un gars, il se fait plaisir sur une, donc il y a un outil de création qui avait été créé pendant un temps avec des Google Summer of Code quand le logiciel a été libéré. Donc il y avait un outil normalement de création qui avait été fait pendant plusieurs Google Summer of Code, sauf que ça a été fait comme plein de petits bouts côte à côte et ça n'a jamais été...
Et pas par les mêmes personnes.
Pas par les mêmes personnes,
et
pas
Google
intégré.
Summer of Code, donc c'est quand même le but du jeu, c'est de mettre le pied à l'étrier à des étudiants, donc pas forcément dans les règles de l'art. Hein.
Voilà, pas finalisé, etc. Et donc là, donc on a une espèce d'outil comme ça, complètement bancal, où il y aurait un potentiel. Et le gars, donc j'ai montré ça en fermant un œil, en disant il va s'enfuir encore comme les autres. Et le gars, il est resté pendant un moment. Puis il disait trop rien. J'ai dit, attendez, ah bah je regarde, c'est intéressant. Il a disparu. Et là, il est revenu. Ça faisait 3 semaines à un moment qu'il n'était plus là. Il dit, alors tu reviens. Il dit, ah ouais, je suis impatient de revenir là. Au boulot, on fait de la migration. J'en peux plus vivement que je reprenne. C'est bon, il est accroché, lui.
Bon. Yanka Amenia Trupin, merci beaucoup d'être venu parler justement donc du projet Kagania. On mettra toutes les références effectivement sur le site cpu.pm pour justement en savoir un petit peu plus. Et peut-être justement ça donnera l'idée à des gens qui nous écoutent d'y mettre la main à la pâte.